On a déjà ouvert cet épître mardi dernier. Romains chapitre 1er, verset 16, que dit l'apôtre Paul ? Je n'ai point honte de l'évangile, c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec, parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Amen. Un homme avait refait entièrement le moteur d'une vieille voiture. Alors, il était fier, bien sûr, hein, ça tournait. Deux jours auparavant, il avait mis la valeur de 20 litres d'essence et la jauge ne fonctionnait pas, il le savait, il fallait qu'il rectifie certaines choses, mais il savait qu'il avait mis de l'essence. Alors, il avait juste roulé pour faire quelques essais autour du pâté de maison, mais il se disait, il en reste. Alors, il voulait faire plaisir à sa femme. C'est une voiture de collection, donc il voulait tout simplement eh bien, l'amener faire un petit tour avec cette voiture. Alors ils sont montés dans la voiture, et puis la voiture a bien démarré, quart de tour, ah formidable. Et puis ils ont commencé à sortir, ils ont pris à l'angle gauche, et puis ils ont avancé un petit peu, et puis plouf, plouf, plouf. Alors, ils ont poussé la voiture, ils l'ont ramenée jusque sur le parking de chez eux. Hein, ils ont poussé cette voiture. Et puis, il a commencé à tout vérifier. Il la connaissait par cœur, il avait démonté le moteur, il l'avait refait à zéro. Hein, donc, c'était bon. Donc, il savait, il vérifie tout. Et puis là, il constate une chose, c'est que l'essence n'arrive pas au carburateur. Alors, il plonge une jauge, réservoir vide. Oh, dit bon. 20 litres, c'est vite parti, hein. Alors, quelque chose comme cela, hein, voilà. Alors, vous savez ce qu'il a fait? Il a remis de l'essence dans le réservoir. Et qu'est-ce qui s'est passé? Non, ça a marché. Et puis, ils sont partis promener, faire un petit tour ensemble. Alors, pourquoi parler de cela? Eh bien, vous allez voir un petit peu. Vous ne pouvez pas recommencer une vie nouvelle si vous mettez, par exemple, vos espoirs en quelque chose de vide. D'accord ? En quelque chose qui n'a pas de puissance, pas de force. Où est votre avenir, là ? Exemple, une personne avait découvert les bienfaits de la méditation. Alors, on lui conseillait à cette dame donc de se mettre devant n'importe quoi et de méditer. C'était pareil, hein, n'importe où. Alors, elle s'est mise, vous savez, devant quoi? Devant un vase. Un vase à méditer. Bon, je ne sais pas si c'est passé par la suite. Mais voyez-vous, on peut mettre sa foi en notre propre sagesse. Est-ce qu'on ira loin dans la vie? Moi, je suis quelqu'un de sage. Vous savez comment je suis. C'est moi qui le dis. Hein. Ce n'est pas les autres qui le voient, qui le disent. Hein. Mais c'est moi qui le dis. Je suis quelqu'un de sage. Mais où est-ce que je vais aller? Je ne vais pas aller bien loin. Eh oui, eh oui. Ou bien dans le pouvoir de la pensée. Pense positif. Ok, je ne sais pas sur quoi vous avez mis votre foi, hein, parce que c'est important de savoir où on met sa foi. Hein. Vous réussirez ou vous échouerez selon l'objet de votre foi. Si justement, eh bien, sur quoi vous avez placé votre foi de quelque chose de solide, d'immuable, vous allez pouvoir aller plus loin que si vous mettez votre foi dans des circonstances. Les circonstances, ça vient, ça part. Ça ne demeure pas, et bien sûr. Alors, si on met sa confiance tout simplement dans une source qui est vide, eh bien, pas d'énergie, rien du tout. Dans un puits, sans eau, dans un réservoir vide, comme pour cette voiture, eh bien, ça ne marchera certainement pas, ou pas longtemps. Si on peut vivre dans l'illusion au départ, on sera vite éclairé, on reviendra vite à la réalité. Alors, quelle est la source de votre puissance? Est-ce que c'est une médaille, une relique, un talisman, que sais-je encore? Il y a tellement de choses qui se sont, eh bien, tout simplement fait jour sous divers milieux religieux, bien sûr. Acte 8 dit ceci. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, survenant sur vous. Une puissance. Quelle puissance? Celle de Dieu. Celle de Dieu. Vous mettrez votre espoir et tout simplement votre espérance dans cette puissance que Dieu vous accorde. C'est le Saint-Esprit qui survient sur vous. Et là, vous êtes mes témoins. Là, vous êtes devenu quelqu'un. Amen. Nous sommes en contact avec Dieu lui-même. 1 Jean 4:4, celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Amen. J'ai mis ma foi, mon espérance, ma confiance et je vis en communion avec celui qui a reçu toute autorité, tout pouvoir. Celui que Dieu m'a donné. 2 Timothée 1:7, l'esprit que Dieu nous a donné ne nous rend pas timides. Au contraire, son esprit nous remplit de force, d'amour et de sagesse. Alléluia. De plus, comme nous vivons en communion avec le Seigneur, je vais m'exprimer comme ça. Notre réservoir, il n'est jamais vide. C'est 20 litres, plus 20 litres, plus 20 litres, plus 20 litres, plus 20 litres. C'est une source inépuisable. Ma vie est remplie. Amen. Ma vie est remplie. Alléluia. Parce que le Seigneur renouvelle jour après jour, moment après moment, tout simplement sa présence en moi, la puissance de son esprit. Éphésiens 3:20, « Or à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, à lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ dans toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. Amen. » Alors ce n'est pas en disant « je crois », ça fait comme le corbeau, hein, « je crois. Un jour, j'ai posé la question à quelqu'un, tu crois en quoi? Ben, je crois un peu à tout, quoi. C'est bien de croire un peu en tout, mais est-ce que c'est ce un peu en tout qui va te sauver? Le mélange. On peut créer des potions magiques qui ne sont pas magiques du tout, hein? Eh oui! Mais je crois dans la personne de Jésus. Je crois dans le Fils de Dieu que Dieu m'a donné. Il m'a fait un cadeau magnifique et merveilleux. Eh bien, c'est que j'ai eu la révélation de l'amour de Dieu. J'ai compris que Jésus était mort sur le bois de la croix pour moi. Mais avant, j'ai compris aussi une chose, c'est qu'il était mort à cause de moi. Parce que c'est moi qui l'ai conduit sur le bois de la croix. Attendez, vous en faites partie aussi, hein, en vous sourire en disant, quand même. Mais non, on a tous participé à la crucifixion de Jésus. Tous, tels que nous sommes, tous. Une chose est merveilleuse et magnifique, c'est que Dieu a eu compassion de nous. C'est que Dieu a voulu tout simplement nous amener à la réconciliation avec lui-même. Pour que nous ayons justement communion avec lui. Alors oui, si je deviens quelqu'un, si je deviens puissant, si je suis capable de marcher en nouveauté de vie, ça ne vient pas de ma capacité à moi. Et je peux dire, je crois, mais c'est tout simplement en celui que tu crois que tu vas avoir la capacité d'aller de l'avant, de triompher sur ta nature. De vaincre le péché. Alléluia. Vous savez, quand il est dit, le juste vivra par la foi. Eh bien, c'est la foi en quoi? C'est la foi en qui? C'est la foi d'abord dans le message de la bonne nouvelle. Le message de la parole de Dieu, de l'évangile. Amen. Quand je vois le premier verset de l'écriture, au commencement, Dieu. Il n'est pas dit au commencement Bernard, Marc, François, Pierre, Paul ou Jacques. au commencement, Dieu. C'est-à-dire que c'est lui la source de la vie. Tout a été créé par sa parole. Alléluia. Tout ce qui existe autour de nous, ça a été créé par la parole de Dieu. Au commencement, il est avant toute chose. Donc c'est lui la source de notre puissance. C'est finalement lui notre garant. Eh oui, c'est lui. Romains chapitre 1, verset 20. « En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil nu depuis la création du monde quand on les considère dans ses ouvrages. » Et il le dit à propos de ceux qui mettaient en doute la parole de Dieu et la puissance de Jésus. Il dit « Ils sont donc inexcusables. » Ils ont considéré, surtout les Juifs à l'époque, ils avaient les écrits. Ils avaient les écrits. On les récitait toutes les semaines. Donc ils savaient. Il s'est dit, ils sont donc inexcusables. Dieu qui a créé toutes choses, qui soutient toutes choses, justement, eh bien c'est celui qui nous sauve par Jésus. C'est lui. Amen. L'évangile, c'est la puissance de Dieu pour sauver quiconque croit. Il n'y a pas de privilégié, il n'y a pas de chouchou. On est tous pécheurs, on est tous privés de la présence de Dieu, de la gloire de Dieu, si vous préférez. On est sauvés par grâce. Par quel moyen? Par le moyen de la foi. Et ta foi, tu la places en quoi? Eh bien, je la place dans le sacrifice de Jésus à la croix. Et c'est parce que je place ma foi dans le sacrifice, dans la mort expiatoire de Jésus à la croix, eh bien que je parviens au salut. Amen. Alors le puissant message du salut, il vient de Dieu lui-même. Paul, lui n'est qu'un serviteur que Dieu a envoyé pour proclamer ce message. Romains chapitre 1, verset 1, on l'a lu le mardi dernier, on avait médité là-dessus. Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu, qui avait été promis auparavant de la part de Dieu par ses prophètes dans les Saintes Écritures, dans les temps anciens. Alléluia. 2 Corinthiens 4, 7, nous portons, dit Paul, ce trésor dans des vases de terre, afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous. Nous sommes ces vases de terre. Oh, ben oui, ben oui. On est comme de l'argile que Dieu tire de la terre et nous façonne à son image. Alléluia. Il y en a qui sont plus grands que d'autres. Hein, Marc? Plus grand, Marc, hein? Il y en a qui sont un peu plus forts que d'autres. Il y en a qui sont un peu moins forts que d'autres. Il y en a qui ont beaucoup de cheveux, il y en a qui en ont moins. Mais c'est comme ça. Dieu nous façonne comme il veut. Alléluia. C'est lui. Et c'est à lui qu'il veut attribuer la gloire et non pas à nous. Le christianisme, il est fondé justement sur la puissance de Dieu. Il n'est pas fondé sur une puissante organisation. L'Église n'est pas une organisation. Dieu, c'est le Dieu Tout-Puissant qui sauve. C'est le Dieu Tout-Puissant qui amène des hommes et des femmes à se retrouver ensemble sous son regard. Comme il est dit, c'est là qu'il envoie la bénédiction d'en haut. Amen. Donc, quand je regarde un petit peu, Romains 1, 4, déclaré fils de Dieu avec puissance, selon l'esprit de sainteté par sa résurrection d'entre les morts, Jésus-Christ, notre Seigneur. Voilà le chef de l'Église. Amen. La tête. Nous, on est dans le corps. On fait partie du corps de Christ. Alléluia. Et l'Église, ce n'est pas dit bâtiment. Un jour, c'est un serviteur de Dieu de France qui va aux États-Unis, alors je ne sais plus si c'est à Denver ou je ne sais plus trop où, et il dit à son collègue qui l'emmenait en voiture, tu me montreras ton église. Alors lui, il a commencé à se gratter la tête, il a dit, on n'aura pas le temps. Hein. Et il était là pour quelques jours, hein. Mais il a dit, on n'aura pas le temps. Hein. Parce que pour lui, l'église, c'était Marc, François, Hélène. Jean-Luc, vous comprenez? Ce n'est pas les bâtiments. Alors, il a compris, il s'est ressaisi, il a dit, non, les bâtiments dans lesquels vous vous réunissez. Ah, d'accord, j'ai compris. Ah oui, je vais la faire visiter tout de suite, mais on y va. Pas de problème. Mais visiter l'église, commencer à chercher un petit peu dans tous les quartiers dans lesquels étaient les chrétiens, dans des communes à côté, il va falloir quelques jours. Hein. Parce que aux États-Unis, c'est des méga-churches, hein, des méga-églises, des grandes églises. Eh oui. Alors oui, Paul fait ressortir que la résurrection de Jésus proclame la puissance de ce message du salut. Il explique également à ses auditeurs et à nous aujourd'hui que ce n'est pas dans cet évangile que nous croyons. Hein, il y a des fois des fantaisies ou des fantaisistes, je ne sais pas comment on peut dire, voilà. Ben, notre foi est vaine. Dieu n'est pas avec nous. Ce n'est pas en l'évangile, la bonne nouvelle de Jésus-Christ, si ce n'est pas l'enseignement des Écritures dans lequel nous croyons que nous plaçons notre foi, notre espérance, mais Dieu n'est pas avec nous. Et on aura beau dire, oui, je parle de Dieu, je l'invoque. Tu l'invoques, mais tu fais le contraire de ce qu'il te dit. Ah. Vous aimez récompenser vos enfants quand ils font les polissons ? Pour ne pas dire autre chose, hein ? Quand ils font de grosses bêtises que vous leur avez interdites, vous aimez les, hein, quelque part les récompenser? Non, pas comme ça, hein. Mais vous aimez les récompenser? Mais non, on n'aime pas. On ne va pas les récompenser, les enfants, s'ils font de bêtises, hein. Ils me regardent, ils disent, oh, qu'est-ce que tu vas dire? Ouh. Eh oui, mais c'est normal. Il faut les corriger. C'est pour leur bien qu'on les corrige. On ne le fait pas avec plaisir, pour les faire souffrir, pour leur nuire. Pour les empêcher de vivre, non, pas du tout. C'est parce qu'on veut le meilleur pour eux. Et ce que Dieu veut pour nous, c'est le meilleur. Amen. Alors oui, quand Paul fait ressortir ces choses, il montre une chose, c'est que oui, si nous marchons fidèlement avec Dieu, Dieu est avec nous. Et la puissance de Dieu est avec nous. Et oui, sinon c'est le contraire. Hein. 1 Corinthiens 15, verset 1er. Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré et par lequel vous êtes sauvés. Si vous le retenez dans les termes où je vous l'ai annoncé. Autrement, vous auriez cru en vain. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures, qu'il a été enseveli, qu'il est ressuscité le troisième jour selon les Écritures. Amen. Il est mort, il est ressuscité. Il est mort pourquoi ? Pour nous. Pour nous sauver, pour nous ouvrir le ciel, une route nouvelle, etc. 1 Corinthiens 15, versets 13 et 14. S'il n'y a point de résurrection des morts, parce que certains n'y croyaient pas, ils rejetaient cela. Christ non plus n'est pas ressuscité. S'il n'y a pas de résurrection des morts, ben Jésus qui est mort, il n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est donc vaine et votre foi aussi est vaine. Dimanche après-midi, je prêchais, je parlais de la palisse, la palissade. Ben, la palisse ne l'aurait pas dit mieux que ce que dit Paul. Hein. Eh oui, tout simplement. Alors c'est quand nous acceptons cette œuvre de Dieu, oui, c'est quand nous l'acceptons, qu'alors l'Esprit de Dieu agit en nous qui croyons. L'Esprit agit avec vérité, il agit avec puissance, il nous convainc. Vous rendez compte ? Il nous convainc. C'est-à-dire qu'il nous fait admettre des choses que nous ne voulions pas admettre, que nous rejetions. Pour ma part, c'était ça, j'étais athée. Il m'a fait comprendre la vérité. Il me l'a fait accepter. Il m'y a fait croire. Et à partir de là, ma foi a commencé à naître. Et si notre foi est dans des choses de néant, notre vie sera du néant. Le néant, c'est tout ce qui n'est pas selon l'Évangile. L'Évangile, c'est la puissance de Dieu. Le néant, c'est le néant. Il n'y a rien. Eh oui. Expérience pratique, justement, si nous vivons sous la puissance de Dieu. Alors les expériences pratiques, ce sont quoi ? Eh bien, ce sont des interventions de Dieu dans nos vies. C'est Dieu qui intervient. L'Évangile touche à la domination du péché, à la culpabilité, hein, tout simplement. Hein, ça touche à la domination du péché parce que le péché, il faut qu'il soit vaincu dans ta vie. Le péché, c'est ce qui nous domine. Certains me l'ont dit, « Pasteur, c'est plus fort que moi !» Ben, je te croyais quelqu'un de fort. Ah oui, pour ça, j'arrive pas. j'y arrive pas. Et oui, c'est plus fort que toi. Donc le péché te domine. Et le péché ne va pas t'amener vers la liberté, il va t'amener vers l'esclavage. Tu vas être dominé, hein, tu vas être sous la culpabilité. Alors voilà que l'Évangile proclame la délivrance. Quant au pouvoir et la domination du péché, ça c'est la bonne nouvelle. Parce qu'Évangile veut dire bonne nouvelle. Romains chapitre 3 verset 9, quoi donc ? Sommes-nous plus excellents ? Nullement. Car nous avons prouvé que tous, juifs et grecs, sont sous l'empire du péché. Ça c'est la condition humaine, elle est comme ça. Selon qu'il est écrit, il n'y a point de juste, pas même un seul. Nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu. Tous sont égarés, tous sont pervertis. Il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Ça, c'est l'état de la société sans Dieu, sans Jésus-Christ. Eh oui. Ensuite vient le résultat de l'Évangile. Le résultat de l'Évangile, il est là. Romains chapitre 3, verset 23. Tous sont péchés, sont privés de la gloire de Dieu. Si on s'arrête là, ben, ça ne change rien. Mais au verset 24, « Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. » Et là, Paul y réalise, Romains chapitre 7, verset 24, « Misérable que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort ?» Il réalise, il prend conscience, il a compris, il dit « Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. » Ainsi donc, moi-même, je suis par l'entendement esclave de la loi de Dieu et je suis par la chair esclave de la loi du péché. Amen. J'ai compris. Je sais ce qui est mal, je sais ce qui est bien, je sais faire et peser le pour et le contre. Donc il faut que je fasse la part des choses. Il faut que je fasse ce que Dieu me commande. Si je veux la vie, eh bien il faut que je mette un terme à ces choses, à ces pratiques mauvaises. Amen. Parce que si j'obéis à la chair, je suis esclave et je suis dominé et je suis mort. Mais voilà, il continue. Romains, chapitre 8, verset 1er. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Alléluia. Hein, qu'est-ce qu'il est dit ? La loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ. Voilà où est placée ma foi. Ce que moi je suis incapable de faire, là où je suis incapable de triompher, là où je suis incapable de couper avec ces choses-là, je dis Seigneur, pardonne-moi, mais secours-moi. Secours-moi. J'ai besoin de toi. Aie pitié de moi. Et à partir de là, le Seigneur nous a franchis. Il nous amène sur une pente qui nous élève. Alléluia, alléluia. Colossiens chapitre 1 verset 12, il nous a délivrés de la puissance des ténèbres, nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé, en qui nous avons la rédemption, le pardon des péchés. Vous savez ce que c'est que la rédemption ? Le rédempteur, c'est celui qui paye pour un autre. Lui, il n'a rien de coupable, mais il paye pour un coupable. D'accord ? C'est ce qu'a fait Jésus à la croix. Il a payé pour nos fautes et pour nos péchés. Il s'est sacrifié. C'est lui le Rédempteur. Amen. C'est lui qui nous accorde le pardon de nos péchés. Romains 8, 31. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses ? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous ? Lui qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré lui-même pour nous tous, comment ne donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui ? Qui accusera les élus de Dieu ? Qui accusera les élus de Dieu ? C'est Dieu qui justifie. L'adversaire, paf ! Un sparadrap, non, bec cloué, paf ! Il ne peut plus rien dire. Il n'a plus droit à la parole, il n'a plus rien. Eh oui ! Qui les condamnera ? Christ est mort bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Vous vous rendez compte que le Seigneur intercède pour vous à tout moment. À chaque instant, il intercède. Alléluia. Il plaide auprès du Père. Père, aide-le. Secours-la, Seigneur, dans ta grâce, accorde-lui du repos. Alléluia. Que sais-je encore ? Toutes ces choses sont là. Il intercède pour nous. Alors l'Évangile proclame que nous avons une source de puissance, amen, pour vivre justement à la gloire de Dieu. Quand nous croyons à cet Évangile, nous devenons une nouvelle création. Amen. Vous avez essayé de vous séparer d'une habitude ? Enfin, pas de péché, là, hein, une simple petite habitude. C'est facile ? Il y a des champions, des championnes. Hein, pourquoi que les hommes, hein ? Et oui, on est tous pareils, hein ? C'est pas facile. Eh bien, il n'y a que Dieu, hein, c'est lui, il n'y a que Dieu qui nous permet de vivre et de marcher en nouveauté de vie. Il n'y a que lui qui peut nous amener à vivre hors du mal, hors du péché, vivre dans la vérité, de marcher dans la vérité. Alléluia. Il n'y a que la puissance de Dieu qui peut faire cela. Il n'y a que cela. Il n'y a que par la puissance de Dieu que nous pouvons devenir ce que Dieu veut. Amen. Ce qu'il veut que nous devenions. Et dire un être refait, comme le moteur. Hein. Bon, il faut penser à mettre de l'essence. Hein. Mais la puissance du Saint-Esprit, c'est notre énergie. Amen. C'est la puissance de Dieu. Alléluia. Et le même Dieu qui a créé l'univers et qui a ressuscité son Fils d'entre les morts, c'est le même Dieu qui agit où ? En nous. Et vous voulez le réduire ? Dire, ah non, il ne peut pas, là, Dieu. Je ne vais pas l'embêter avec ça. Embête-le. Moi, je te dis, embête-le. Eh oui. Quand nous cessons de regarder à Dieu, qu'est-ce qui se passe ? Quand nous regardons à nos propres forces, nos propres capacités, voilà que l'objet de notre foi a changé. C'est plus le Tout-Puissant. Vous comprenez ? Ce n'est plus Dieu, c'est nous. Et si c'est nous, qu'est-ce qu'il y a ? Eh bien, il n'y a plus de puissance. Pouf, pouf, pouf. La panne sèche. Et c'est là que je suis capable de faire des choses que je ne me soupçonnais pas capable de faire. D'être méchant. Vous comprenez ? Eh oui, il n'y a plus la capacité de Dieu en nous. Il n'y a plus cette puissance, il n'y a plus cette vie. Et je suis capable de mentir. Comment mentir, moi ? Jamais ! Jamais, sourche, je ne boirai de ton eau. Vous connaissez, hein ? Que celui qui croit être debout prenne garde. J'ai besoin de toi, Seigneur, à chaque instant. J'ai besoin de toi à tout moment. Amen. Alors, c'est ainsi que certains ont bien commencé. Au début, ils ont mis leur confiance en Dieu pour être délivrés. Mais ensuite, malheureusement, eh bien, ils se sont confiés en eux-mêmes. Ils se sont confiés en eux-mêmes. La puissance de Dieu, qui est une puissance libératrice, elle est là, disponible, ouais, mais on s'en prive. Et c'est dommage. On peut être délivré de l'anxiété, puisqu'à Dieu, tout est possible. On peut être délivré de la peur. La peur du lendemain, il y en a qui me le disent. Je m'endors avec cette terreur en moi. Dans la nuit, ça me réveille. Le lendemain, je suis encore dans le même état. Et je repars au boulot, je fais ma journée. Et toute la journée, ça me travaille. J'ai peur. Tournez le regard vers le Seigneur. Invite-le à vivre en toi sa vie. Et à partir de là, tout change. Amen. La puissance de Dieu, puissance libératrice, il nous délivre de toutes ces choses. Si nous commençons à regarder nous-mêmes, qu'est-ce qui se passe ? Nous commençons à constater que nous avons des limites, des capacités qui ne sont pas inépuisables, que nous ne sommes pas capables de répondre à tout. Et quand nous regardons au Seigneur, que nous levons les yeux bien plus haut, là nous réalisons que nous avons tout bénéfice à lever les yeux bien plus haut encore. Parce que là nous trouvons des réponses. Parce que là, on n'est pas seul. Amen. On arrive à supporter des situations, celles que nos capacités naturelles ne nous auraient pas permis de supporter. Mais nous avons choisi de faire confiance à la puissance de Dieu. Et ça marche. Et ça marche. Oh, la question, elle est là. Vais-je pouvoir être fidèle ? Un jour, je trouve une jeune fille en dehors d'un lieu de réunion. Là, c'était un été, la colo à Gap, tiens, où est Hervé en ce moment. Je la trouve dehors. Je dis, qu'est-ce que tu fais là ? Elle me dit, ça me fait réfléchir tout ce que j'entends. Mais je me dis, je ne vais pas tenir le coup. Attends, tu te prives de ce qui est en train d'être dit, qui te fait beaucoup de bien. Mais oui, ça me fait beaucoup de bien. Mais après, je vais retourner chez moi et je vais repartir comme j'étais avant. Je dis, mais tu as la puissance de Dieu qui est capable de te garder si tu le veux. Moi, je prie pour toi. Elle était de 7, je me rappelle. Ça ramène un moment. Je dis, mais fais confiance au Seigneur. Au lieu de te priver de sortir, parce que ça te fait beaucoup de bien. Moi, je ne sais pas, quand ça me fait du bien, mais je reste. Hein. Et j'en veux plus. J'ai dit, c'est ce qu'il te faut faire. Il te faut réclamer. Tout simplement à Dieu de te bénir et d'aller bien au-delà. Laisse Dieu agir. Amen. Laisse Dieu agir. De Thessaloniciens, chapitre 1, verset 11, c'est pourquoi nous prions continuellement pour vous, afin que notre Dieu vous rende digne de son appel, qu'il accomplisse en vous avec puissance tous les desseins bienveillants de sa bonté et l'œuvre de votre foi. Amen. Et je conclue, Romains, chapitre 1, verset 16, je n'ai point honte de l'Évangile. Hein? C'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Alléluia! Du juif, premièrement, puis du grec, parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu, par la foi, pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Tu veux apprendre à marcher par la foi? Tu veux apprendre à permettre à la puissance de Dieu d'agir dans ta vie? Dites-moi oui ou non. Que je sache. Que Dieu sache. Vous avez envie. Alors avance avec le Seigneur. Faites-lui confiance. Ne redoutez pas. C'est un avion. C'est un rafale. Au bruit, c'est ça. Faites confiance au Seigneur. Alléluia. Faites-lui confiance. N'ayez pas peur. Ne redoutez pas l'avenir. Mais dites-vous que Dieu est avec vous. Et tant que vous allez marcher fidèlement avec lui, lui sera avec vous. Amen. Ça vous plaît l'Épître aux Romains? Alors si j'ai encore la possibilité, je vous en donnerai un peu plus. J'ai 50 études comme ça que j'ai fait. J'ai fait à Martigues, il y a au moins 10 ans de ça, 15 ans, 11 ans. Non, plus que ça, 15 ans. On me dit après, c'est du pain rassis. Vous trouvez qu'il est rassis le pain? Oh non, on y met un peu d'eau, on l'a fait un peu chauffer. Non, pas du tout, c'est pas ça. La parole de Dieu est vivante, elle est permanente, elle est puissante. Alléluia. Alors que Dieu prenne soin de vous, permettez-lui de le faire. Gloire à Dieu. Permettez-lui d'agir dans votre vie.